Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Une délégation du Saint-Siège à la conférence générale de l'UNESCO, des membres des dicastères de la Curie romaine participent au débat des commissions spécialisées autour de thèmes tels que l'éducation, la culture ou encore la communication et l'information. Nous en parlerons dans ce magazine. Nous reviendrons également sur la récente assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Les déclarations publiques qui ont été adoptées révèlent les préoccupations des Églises membres en matière de justice et de paix et leur inquiétude face à la crise économique et environnementale et aux défis spirituels auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Vision chrétienne de la sexualité, idéologie du genre, défis éthiques du travail humain, les évêques portugais se réunissent en assemblée plénière alors que la grogne sociale ne cesse de monter contre les mesures d'austérité. Au Portugal, comme dans d'autres pays touchés par la crise, l'Église se range aux côtés des plus démunis. Le Sacré Collège est en deuil. Le cardinal italien Domenico Bartolucci est décédé ce lundi matin à l'âge de 96 ans. Musicien et compositeur, il fut pendant plus de 40 ans directeur du chœur pontifical de la Chapelle Sixtine, où il eut l'honneur de travailler avec cinq papes. Ses références majeures étaient la musique polyphonique et le chant grégorien. Il était considéré comme un des meilleurs interprètes de Palestrina. Ses oratorios ont contribué à sa notoriété. Mais le cardinal Bartolucci était aussi connu pour son hostilité à l'abandon du latin et pour son inquiétude quant à l'impact d'un tel abandon sur le répertoire de musique sacrée en usage au cours des célébrations. Avec un langage particulièrement direct, il n'hésitait pas à dénoncer les guitarades et les chansonnettes introduites dans la liturgie après le Concile Vatican II, des innovations selon lui vulgaires et de mauvais goût. Il avait reçu en 2010 la pourpre des mains de Benoît XVI, qu'il appréciait beaucoup. Ses obsèques auront lieu mercredi prochain, 13 novembre, dans la basilique Saint-Pierre. La liturgie sera présidée par le cardinal Sodano, doyen du Sacré Collège. Le pape François présidera les rites conclusifs à la fin de la célébration eucharistique. Dans un télégramme de condoléances, le Saint-Père rend hommage au ministère que le cardinal Bartolucci a exercé par le biais de la musique sacrée qui naît de la foi et exprime la foi. Le Collège des cardinaux compte désormais 200 membres, dont 109 électeurs. Un concert pour la paix sera donné ce mardi soir à Rome à l'initiative d'une fondation réunissant des catholiques et des orthodoxes qui ont choisi d'œuvrer ensemble sur le terrain de la culture pour favoriser l'unité des chrétiens. Au programme, des chefs-d'œuvre de la musique russe et italienne, mais aussi deux extraits de la Passion selon saint Matthieu, composés par le métropolite Hilarion Alfiev, président au sein du patriarcat de Moscou du département pour les relations extérieures. L'harmonie contre le vacarme déchirant et bouleversant des conflits. Ce concert, expliquent les promoteurs, est une réponse à l'appel du pape François à la prière pour les régions touchées par la violence de la guerre. Symbole universel de la rencontre entre les cultures, la musique est un outil qui peut alerter les consciences en faveur de la cause de la paix et contribuer à faire taire les armes. La recette du spectacle sera ainsi affectée aux victimes des guerres qui déchirent le monde. Ce concert, sous le haut patronage du Saint-Siège, du patriarcat orthodoxe russe et de la présidence italienne, est un signe parmi d'autres du désir des catholiques et des orthodoxes de se retrouver autour de priorités partagées. Sur plusieurs dossiers, les positions des deux églises sont convergentes. En ce qui concerne l'actualité internationale, Rome et Moscou ne cachent pas leur vive inquiétude au sujet du sort des chrétiens au Moyen-Orient et notamment en Syrie. La journée de prière convoquée par le souverain pontife début septembre avait été très appréciée en Russie. La 10e Assemblée Générale du Conseil œcuménique des Églises s'est achevée vendredi à Busan, en Corée du Sud, par l'adoption d'une série de déclarations sur plusieurs thématiques allant de la récupération politique des religions aux droits des minorités religieuses en passant par la réunification entre les deux Corées. Pendant plusieurs jours, les participants, toutes confessions chrétiennes confondues, ont travaillé et prié ensemble en vue de renforcer leur coopération au service de l'Évangile et pour le bien de toute la famille humaine. Si des divergences persistent au sujet des priorités qui devraient figurer sur l'agenda œcuménique, nul doute que l'Assemblée de Busan ne pourra qu'encourager tous ceux qui se consacrent à la cause de l'unité des chrétiens. Notre envoyé sur place, Philippe Aichon, a recueilli les impressions d'un moine du monastère de Chevetogne en Belgique, frère Thaddée Barnas, qui s'occupe de la revue Irénicon, la plus ancienne revue œcuménique au monde.
Les fruits, il faut attendre, pas plus tôt que d'ici un an. Ce qu'on voit d'ici, c'est que c'est un immense succès. Et c'est grâce aux Coréens. Et espérons que les églises membres sentent la relance que cela peut signifier. Ce qui manque, c'est l'accent théologique. Tout l'apport théologique a l'air d'être soumis à la priorité de l'action. Nous autres catholiques, je crois que les orthodoxes sont du même avis, veulent que la théologie ait la liberté de se développer sur les questions de base sans que cela soit nécessairement au service d'un programme pratique.
Donc quand vous parlez de succès de cette assemblée, c'est plutôt dans le sens de coopération pour la justice, pour la paix.
Non seulement cela, il y a une ambiance excellente ici. On ne sent pas de tension entre les orthodoxes et les églises occidentales. En 1998, il y a eu l'assemblée de Harare et les orthodoxes ont exigé qu'il y ait une commission spéciale. Et j'étais époustouflé de découvrir qu'ils ont relevé tous les défis, qu'ils ont pris toutes les objections orthodoxes très au sérieux. Et le rapport final qui est sorti, j'étais dans la salle du comité central quand on l'a accepté en 2002, a tout changé. Tout le monde était heureux, les orthodoxes se sentaient enfin pris au sérieux. C'était une relance de confiance. Certaines questions comme l'homosexualité, on voit qu'il y a encore une certaine peur que les éléments libéraux imposent un point de vue là-dessus, sans tenir compte des objections, des convictions profondes des orthodoxes. Cela n'a pas disparu, mais il y a une confiance de fond.
On parle ici aussi d'un nouveau élan pour l'œcuménisme, peut-être un nouveau printemps.
Il y a 25 ans qu'on parle de ce nouveau printemps. Non, il ne faut pas aller trop vite, mais nous avons tous hâte à ce que cela revienne, à ce qu'on retrouve l'élan qui existait dans les années 60, début des années 70, où on croyait que l'œcuménisme n'était pas un exercice de collaboration uniquement, ni un exercice académique purement, mais un cheminement commun vers une unité visible. Pas nécessairement une unité au niveau de l'organisation, mais une reconnaissance mutuelle qui va rendre notre témoignage d'église chrétienne plus crédible vis-à-vis du monde.
Frère Thaddée Barnas du monastère de Chevetogne en Belgique. Le Saint-Siège annonçait le versement d'une première contribution de 150 000 dollars pour venir en aide aux populations des Philippines touchées par le récent passage du typhon Haiyan qui a fait des milliers de morts. Cette somme sera envoyée par le Conseil pontifical Corunum qui finance les initiatives humanitaires spéciales du pape à l'occasion des catastrophes naturelles dans le monde entier, du typhon aux Philippines à la sécheresse dans le Sahel. Cette somme sera répartie par l'église locale dans les régions les plus touchés par la catastrophe et sera utilisé pour soutenir l'assistance aux personnes déplacées et dans les zones inondées. C'est une première expression concrète de la proximité spirituelle et de l'encouragement paternel du pontife envers les personnes et les territoires dévastés par les inondations. Des dirigeants du monde entier sont en train de débattre des objectifs de développement internationaux. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, tient jusqu'au 20 novembre sa 37e conférence générale à Paris. Monseigneur Francesco Follo est l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO. Dans son intervention samedi, dans le cadre du débat de politique générale, il a mis l'accent sur un certain nombre de points. La promotion du dialogue interculturel, l'éducation au partage, la dimension sociale et politique des religions, le rôle de la dimension spirituelle dans la recherche du bien commun, mais surtout la contribution des jeunes. On l'écoute.
Le point central sur les jeunes, pas vu comme personnes à éduquer, mais qu'il faut valoriser dans leur contribution. Pas seulement pour les éduquer, les faire entrer dans la vie, les préparer à la vie. Ils ont déjà une vie et leur attitude, leurs pensées, leurs idées peuvent vraiment être un apport très très positif à la société. Avec leur, heureusement, manque de préjugés, leur ouverture vers l'avenir, leurs idéaux, les jeunes sont vraiment dans la position juste pour les valoriser, pas seulement pour, parce que c'est la mode, être ouvert aux jeunes. L'exemple plus concret que je connais, c'est l'exemple du père Choufani, un père chrétien israélien, qui a fait à Jérusalem une école où il y a un tiers de chrétiens, un tiers de musulmans, un tiers de juifs. C'est à partir de l'éducation des jeunes où on peut frapper les préjugés et être ouvert d'une façon permanente et réciproque. Sinon, on fait seulement des déclarations officielles, mais qui ne changent pas.
La dimension sociale et politique des religions est aussi dominante. Hein. Vous y revenez à la fin de votre raisonnement, elle a une très grande importance. Vous reprenez le cardinal Danielou. Vous dites que les religions ont une fonction commune et irremplaçable dans le cadre technique des cultures contemporaines, dans le but d'un bien commun terrestre, pour qu'il soit complet et équilibré. En gros, c'est incontournable.
Oui. L'idée géniale du cardinal Danielou, ce n'est pas seulement qu'il y a une contribution positive de la religion, non, qui de plus en plus est reconnue, mais l'idée que je partage, qui à la fin est rebondie par Habermas aussi et Benoît, le pape émérite, c'est le fait que les hommes politiques doivent s'intéresser seulement du bien commun terrestre des citoyens. Mais le bien commun terrestre des citoyens comprend la dimension spirituelle. La foi ne peut pas être vécue seulement de façon privée. C'est une vie communautaire. Donc, les hommes d'État, les hommes politiques, à mon avis, c'est un devoir de s'occuper et permettre que la dimension spirituelle ait une dimension sociale publique.
Avec cette dimension, il y avait l'éducation, les jeunes et la communication au sein de la communauté. Voilà. Vous avez choisi ces quatre thèmes. Dans quel but précis d'une société que vous voyez comment à l'avenir?
Le pape François, quand il s'est rencontré avec Ban Ki-moon, qui est le secrétaire de New York, pas de l'UNESCO, mais ils ont trouvé une formule que j'ai trouvé très intéressante. La culture du rapprochement, pas le rapprochement de culture. La culture ne se choque pas. Il y a le choc des ignorances, pas le choc de culture ou de civilisation. Et chacune devient une richesse pour l'autre. Donc, la culture de l'approchement signifie que c'est pas qui est contre le dialogue, personne. Qui est contre la paix, personne. Il faut avoir un accueil mutuel et permanent. Sinon, on dialogue sur le dialogue.
Monseigneur Follo, observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, interrogé par Antonino Gallofaro. La conférence des évêques du Portugal se réunit cette semaine en assemblée plénière à Fatima, avec deux grands thèmes à l'ordre du jour, la question de l'emploi dans un pays confronté à une crise économique majeure et l'idéologie du genre qui suscite une vive préoccupation au sein de l'Église catholique en Occident. Les évêques portugais devraient notamment adopter un document sur les défis éthiques du travail, un document attendu dans un contexte social qui se crispe chaque jour un peu plus. Olivier Bonnel.
Au Portugal, les mesures d'austérité ont aggravé la pauvreté et les carences alimentaires. Pour les évêques, la question de l'emploi est centrale dans la conjoncture actuelle, a indiqué leur porte-parole. Beaucoup de foyers ont perdu leurs allocations familiales et la hausse des impôts a grévé les budgets. Aujourd'hui, des familles ne mangent pas à leur faim. Ces dernières semaines, des évêques portugais sont montés au créneau pour exhorter les autorités à prendre davantage en compte les besoins du peuple. L'archevêque de Braga a sévèrement critiqué certaines décisions prises par le gouvernement, les qualifiant d'inconcevables. Monseigneur Ferreira a également interpellé le clergé sur les graves répercussions sociales de la crise. « Notre peuple, a-t-il lancé, souffre à cause des décisions de ceux qui nous dirigent. » Les nouvelles mesures d'austérité inscrites au projet de budget pour 2014, présenté à la mi-octobre, ont provoqué une vague de colère dans le pays et des grèves dans le service public. Ce budget est marqué par des coupes sévères dans les salaires et les retraites des fonctionnaires et des employés des entreprises publiques. Vendredi, le mouvement des fonctionnaires a été largement suivi, perturbant le fonctionnement des hôpitaux, écoles et tribunaux, d'où la mobilisation de l'épiscopat portugais, déterminé à exprimer sa solidarité avec les plus défavorisés.
La réussite de l'intégration professionnelle passe par la reconstruction personnelle et par des moyens concrets. Adresse, lieu de vie, liens sociaux, respect de la dignité. L'Ordre de Malte en France a ouvert une péniche pour accompagner les personnes fragilisées par des parcours de vie chaotiques vers la réinsertion professionnelle et l'autonomie. Bateau tremplin, le fleuron Saint-Michel accueille des hommes désirant reprendre pied de façon durable dans le monde du travail. Structure innovante par ses actions d'encadrement et de tutorat personnalisé, le Fleuron Saint-Michel offre un accompagnement individualisé et un environnement favorisant le retour à un équilibre professionnel et social. 9 salariés et une trentaine de bénévoles sont au service des passagers qui ont fortement besoin d'être épaulés pour se sortir du cycle infernal de l'assistanat et de la précarité. Pour nous en parler, la chargée de communication de l'Ordre de Malte en France, Anaïs Boisselet.
Le Fleuron Saint-Michel de l'Ordre de Malte France, en fait, a été créé, ouvert, il y a à peu près 5 ans. Et les premiers passagers, puisque c'est comme ça qu'on appelle les personnes que l'on accueille, sont arrivés quelques mois après. Et depuis 5 ans, on a accueilli 200 hommes âgés de 20 à 55 ans qui viennent pour reprendre pied. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont connu une rupture dans leur vie, alors qu'elle soit professionnelle, familiale ou liée à l'immigration, et donc qui vivent aujourd'hui dans une forte précarité. Et nous les accueillons le temps qu'ils reprennent pied, c'est-à-dire qu'ils trouvent un emploi stable et ensuite qu'ils trouvent un logement.
Concrètement, comment vous leur venez en aide ?
On les accueille déjà physiquement sur la péniche. Donc il y a une trentaine de cabines, une cabine par homme, pour leur donner une adresse. Et ensuite, on les accompagne dans les démarches pour trouver un emploi. Donc nous avons des liens avec des entreprises de réinsertion. Donc nous les aidons, accompagnés ça également d'entreprises et de fondations qui organisent des ateliers. Nous les aidons à construire un CV, à répondre à un entretien d'embauche, à gagner en assurance, donc ça c'est pour l'emploi. Et après, nous les accompagnons dans toutes les démarches administratives également pour pouvoir trouver un logement. Donc ils ne sortent de la péniche au bout de quelques mois que lorsqu'ils sont stables dans leur emploi et qu'ils ont un logement pour retrouver ce qu'on appellerait une vie normale à l'extérieur. Donc il y a tout un accompagnement administratif et bien évidemment aussi un accompagnement psychologique pour que chacun reprenne pied et reprenne confiance en soi.
Et à chaque fois, vous enregistrez une réussite, il n'y a pas de rechute entre guillemets ?
Si, il y en a toujours, parce qu'il faut comprendre vraiment que c'est une population qui est dans une profonde précarité, c'est-à-dire qu'il y a tout style de personnes qui arrivent. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Alors eux, ils ont déjà un petit emploi, mais ils n'ont pas les moyens de trouver un logement, donc ils sont vraiment dans une situation très précaire. Il y a des véritables chômeurs. Donc eux, alors ça, là, c'est la très grande précarité. Et il y a des personnes qui sont totalement démunies, c'est-à-dire qui viennent directement de la rue. Donc leurs situations sont quand même pas très stables. Donc nous, on essaye de leur redonner une stabilité. Maintenant, il y en a qui peuvent être fragiles psychologiquement. Et donc, même s'ils ont passé 9 mois avec nous, que quand ils sortent, ils ont a priori tous les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. On leur a donné vraiment toutes les clés pour réussir. Il y en a qui peuvent rechuter, mais on a un taux de réussite de 70%.
Est-ce qu'avec la crise, vous avez vu émerger de nouvelles formes de pauvreté ?
Oui. Alors, les nouvelles formes de pauvreté, justement, c'est tout ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Donc, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un petit emploi, qui peuvent être en intérim, mais qui ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir se loger, pouvoir se nourrir tous les jours. Donc ça, c'est assez terrible, alors qu'ils peuvent avoir un bagage professionnel. Et le deuxième aspect qu'on remarque aussi, c'est un rajeunissement de cette population en grande précarité.
Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile aujourd'hui de se réinsérer ?
Non, je pense pas. Je pense en revanche qu'il y a plus de personnes qui sont dans une profonde précarité que parfois, quand on est dans la très très grande précarité, il faut un vrai travail psychologique de remise en confiance et vraiment c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en essayant de leur permettre de reprendre pied. C'est-à-dire qu'on les aide à avoir une grande autonomie, même s'ils sont accueillis, qu'ils sont hébergés sur le bateau, qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont nourris, logés, blanchis. On essaie de les rendre autonomes, c'est-à-dire qu'on essaye aussi, pour qu'ils soient dans la vie la plus normale possible, on les fait participer en fonction de ce qu'ils peuvent, de leurs moyens, de leurs revenus, de donner une petite contribution pour la vie du bateau. Donc par ce genre de moyens, voilà. Maintenant, la réinsertion n'est sans doute pas évidente aujourd'hui, oui, surtout en temps de crise.
Anaïs Boisselet, chargée de communication à l'Ordre de Malte en France, était interrogée par Olivier Tosserie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.